À mon arrivée à Santiago, la première chose que l'on m'apprend sur Amos, peut-être pas la première, mais celle qui vraiment me fout en l'air, est la raison de son départ. Quoi ? Je n'étais pas au courant ? La presse en avait pourtant parlé à l'époque. La presse locale, c'est vrai, et personne n'est certain que l'information ait atteint les canaux étrangers, mais tout de même, s'ensuit un long moment d'hébétude. Hébété, on le serait à moins à ma place. Eh bien oui, il y a de quoi te perdre la boule lorsqu'on vous apprend que le type que vous recherchez depuis des mois a dû quitter précipitamment le pays pour avoir participé à la libération des animaux d'un zoo. Le putain de parc zoologique du Cerro San Cristobal, cette colline massive qui surplombe tout Santiago Centro. Bien sûr, on ne libère pas un zoo tout seul. On ne libère pas un zoo tout court. D'ailleurs, pour être tout à fait précis, toutes les cages ne furent pas ouvertes. Une partie seulement des animaux eut le privilège de profiter, pendant quelques heures, des délices de la capitale. Une aile qui ne comprenait pas les grands fauves, et de manière générale, aucun prédateur dangereux. Information qui me rassure partiellement dans la mesure où on peut l'être lorsqu'on l'on apprend que l'on poursuit un détraqué, pas nécessairement criminel. Les tigres, les lions, les pumas et les jaguars ne purent que s'agiter désespérément de leur cage en regardant leurs compagnons les plus inoffensifs, les détenus pour délits mineurs, partir conquérir leur liberté ou, pour les moins optimistes, en découdre avec leurs oppresseurs. Il en fut de même pour les ours bruns et pour les ours polaires qui, dit-on, observèrent tout cela de loin, peu concernés ou pas suffisamment dupes de leurs chances de survie hors de leurs cellules. On épargna également aux innocents de Santiago la présence terrorisante des éléphants, des girafes et même des hippopotames, autant que l'on épargna à ces bêtes l'inéluctabilité d'une traque perdue d'avance et probablement mortelle. Enfin, les serpents, isolés dans leur serpentarium, satisfaits de leur entre-soi, ne surent jamais rien des événements qui eurent lieu cette nuit. Quant à la pagaille semée par les animaux déchaînés, voici le récit que l'on m'en fit. Les premiers que l'on vit détaler les pentes de la colline furent les zèbres. Et dans la nuit, on les prit d'abord pour des chevaux. C'est pourquoi on ne s'alarma pas immédiatement. Quoiqu'en y réfléchissant une minute, il y a tout de même quelque chose d'alarmant à voir des chevaux en liberté dans les rues d'une mégapole, et j'ai du mal à comprendre que cette anomalie n'ait fait réagir personne. Personne ne s'affola non plus en voyant une nuée de grands rapaces descendre en piqué vers la rue Pio Nono, puis remonter avec hargne vers le ciel avant de s'éparpiller aux quatre coins de la ville. Certes, il faisait nuit, et je veux bien croire que depuis les bars sombres et bondés, l'alcool aidant, on les prit pour de simples pigeons ou moineaux, mais tout de même. On parle ici de dizaines d'aigles et de condors surexcités par des années d'enfermement et qui se seraient rués en masse et sans pudeur sur les poubelles de rue. Certes, il faisait froid à cette époque, et l'hiver à Santiago, m'a-t-on dit, est plus rude qu'on se l'imagine. Et, puisque l'on peut fumer dans les bars, à quoi bon se faire du mal, etc. Mais de là, à ce que pas un ivrogne dégueulant au-dessus d'une plaque d'égout, que pas un connard rendu insomniaque par le bruit de la rue la plus festive de Santiago et passant sa nuit à gueuler par la fenêtre, n'ait pu distinguer un aigle d'un putain de pigeon, ça, j'ai du mal à le croire. Quant au reste des oiseaux peuplant le parc ornithologique, on ne les revit plus, si ce n'est par hasard, en visitant des riverains ayant recueilli quelques spécimens rares sur leur balcon. Mais dans ce cas-là, la loi du silence était le plus souvent de mise. Le fait est que ce qui alerta pour de bon les habitants du quartier, qui ne tardèrent pas à prévenir la police, fut de voir débouler une armée de kangourous, nerveux et prêts à en découdre. On raconte, et si je prends ce ton de légende sentencieux, c'est que c'est sur le même ton qu'on m'a vendu toutes ces conneries, que le premier coup de téléphone passé à la police fut l'œuvre d'un serveur venant d'assister à cette scène ahurissante d'un kangourou, coiffé d'un sac plastique enfilé de travers sur le museau, en équilibre sur sa queue, essayant de défoncer une cabine téléphonique avec ses pattes arrière. Puis très vite, l'on vit se déverser depuis les collines de San Cristobal une armée féroce et chaotique qui commença à vandaliser les commerces de la rue Pio Nono. Il était déjà tard dans la nuit et la réaction des habitants ne fut sans doute pas la plus appropriée. Une fois passé l'étonnement, mais d'une certaine manière, comment peut-on cesser d'être étonné par des kangourous casseurs ? Les fêtards des bars alentours, cuits au pisco pour la plupart, décidèrent de ne pas se laisser faire. Ils quittèrent les pistes de danse et allèrent tenir tête aux bêtes déchaînées. Alors démarra un carnage extrêmement humiliant pour la race humaine. Habitués aux bagarres de rue, quelques jeunes alcoolisés tentèrent d'abord de rivaliser avec les kangourous à armes égales, c'est-à-dire à mains nues. Si certains parvinrent à les toucher, ce ne fut que de manière superficielle, ou grâce à des coups par surprise, les combats en face à face tournant inévitablement à l'avantage des kangourous, plus mobiles, plus puissants, ne ressentant pas la peur et bien sûr dotés d'un instinct absolument étranger à l'homme. On s'y prit à deux, à trois pour immobiliser un seul kangourou, mais le résultat fut toujours le même, invariablement. des hommes se tordant de douleur dans les caniveaux, se cachant sous les bancs, grimpant tant bien que mal aux arbres et finalement prenant la fuite ou s'agglutinant dans les bars en priant pour que le double vitrage un peu bon marché tienne le coup face aux assauts frénétiques des kangourous cinglés, ivres de revanche. Si l'on veut relater les faits avec exactitude, il faut dire que, même si la débâcle fut totale, quelques hommes, depuis célébrés comme des héros grecs, parvinrent à surnager. Ce furent évidemment les pratiquants expérimentés d'arts martiaux et de sports de combat. Sans cruauté excessive, certains d'entre eux réussirent à mettre hors d'état de nuire les kangourous les moins tenaces. On vit notamment un champion de MMA local tenir tête à trois kangourous un peu moins déterminés que les autres, il faut l'avouer, mais tout de même. Mais combien de sportifs de cette trempe peut-on s'attendre à voir réunis le même soir dans une même rue ? En définitive, les kangourous surnuméraires finirent par prendre facilement le dessus. On raconte même, mais là, je préfère penser qu'il s'agit d'un folklore inventé a posteriori, que les kangourous profitèrent de la confusion pour se frayer un chemin dans l'un des bars les moins protégés et qu'une fois rendus maîtres des lieux par simple intimidation, ils se désaltérèrent directement à la pompe, firent évacuer le lieu, changèrent la musique et dansèrent une danse désespérée jusqu'à s'épuiser en attendant l'arrivée de professionnels de la capture des animaux qu'ils savaient inéluctable. Et dans cette ambiance de dernière nuit avant la fin du monde, ils auraient été rejoints par quelques pingouins arrivés là sur le tard. Ces derniers auraient eux aussi été de la fête, participant à la bonne humeur en s'adonnant à des séances de ventriglisse sur les sols en carrelage rendus glissants par la bière renversée. Les vieilles rancœurs entre kangourous et pingouins, que l'on serait bien incapable de dater, mais dont on soupçonne qu'elles ont proliféré durant l'enfermement, auraient alors été mises de côté le temps d'une soirée. Lorsque les premiers policiers firent une timide irruption dans le bar, ils ne se virent opposer aucune résistance, ni de la part des kangourous, ni de la part des pingouins, tous ronflant comme des bienheureux, assommés par les quantités de liqueurs auxquelles la vie en captivité ne les avait pas habitués. Mais je ne crois pas me tromper en disant qu'ici la légende atteint les limites de ce qu'un esprit rationnel est en mesure d'accepter. Je ne saurais dire comment le reste du carnage prit fin, mais l'hypothèse la plus plausible est que la police chilienne traita ces kangourous comme elle traite ses étudiants lorsqu'ils deviennent trop encombrants, en les encerclant d'abord, puis en ébranlant leur volonté à l'aide de puissants canons à eau. Une fois qu'ils sont grelottants et bien anéantis, elles chargent dans le tas puis embarquent tout ce beau monde dans d'énormes camions direction les cellules. Mais les kangourous ne furent pas les seuls animaux à s'échapper du zoo, et s'ils furent ceux qui causèrent les dégâts les plus spectaculaires, on se débarrassa d'eux plutôt vite, et au petit matin, il n'était plus qu'un mauvais souvenir, un souvenir bien cauchemardesque tout de même. Les renards, que ce soit le sorochila ou le soroculpeo, furent aussi une plaie qu'il fallut bien vite prendre en charge. Visiblement de nature belliqueuse, ils allèrent immédiatement s'attaquer aux chiens de rue qui pullulent à Santiago et plus encore dans les quartiers populaires qui entourent le zoo. Mais si les chiens de Santiago et notamment les bergers allemands sont parmi les plus stupides qu'il m'ait été donné de voir, ils n'en tiennent pas moins à leur territoire. Et il semblerait que, le temps d'une lutte de quelques jours, ils s'organisèrent en meute pour chasser leurs renards et firent preuve d'une cruauté d'ordinaire étrangère au règne animal. On ne compte plus le nombre de renards retrouvés morts dans les caniveaux ou sur les porches des maisons. Non seulement morts, mais mis en pièces, parfois éviscérés, les yeux arrachés, certains le visage entièrement charcuté, les parties génitales extraites à coups de croc. Quelques renards, souvent les plus corpulents, furent même pelés et édentés. On conclut de toute cette barbarie qu'elle avait été commise pour l'exemple, afin qu'il ne vienne plus jamais à quiconque l'idée d'empiéter sur les terres des chiens.